Bienvenue dans ce cours consacré à la philosophie de la vie. Nous allons, dans ces trois leçons, explorer les idées des auteurs les plus relevants d'un courant ou d'un mouvement philosophique qui se développe en Europe au tournant du XXe siècle et qui met la catégorie de vie au centre de ses réflexions. Nous verrons ensemble, par la présentation des philosophies de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, et dans les prochains cours du philosophe et sociologue allemand, berlinois, Georg Simmel, et de Henri Bergson, que la philosophie du moment qui va de la fin du siècle XIXe à la Première Guerre mondiale en Europe nous permet de reconnaître dans la vie le concept central, l'axe autour duquel tourne le débat philosophique. Et que cela est vrai à la fois pour ce courant que nous appellerons, et nous verrons pourquoi, philosophie de la vie, mais aussi pour ses détracteurs, dont le rôle est souvent défensif et c'est à justifier en fonction du relief assumé par la catégorie de vie à cette époque. On pourrait dire, en empruntant une formule de Georg Simmel, que la vie est la clé de voûte de cette époque de la pensée européenne, le concept en mesure de restituer son profil exact et synthétique. Comme dans une arcade ou dans une voûte, la pierre centrale, justement la clé de voûte, servirait à soutenir toutes les autres pierres, sans pour autant être soutenue par quoi que ce soit. De même, la vie est le concept clé de voûte, le concept fondamental et pourtant sans fondement. Au lieu de chercher le contenu de la vie ou les valeurs externes à la vie elle-même, la philosophie du début du XXe siècle européen avait trouvé dans la vie elle-même et dans ses attributs, ses corollaires, comme le processus, le dynamisme, l'énergie, le renouveau, la jeunesse, la créativité, l'aspiration, les critères moraux et esthétiques les plus élevés, au-delà du bien, du mal, du beau, du laid. C'était vraiment les critères vitaux qui étaient centraux. La vie, donc, passe du domaine de la médecine, de la science, à la sphère de la connaissance, de la morale, de la philosophie politique. Il s'agit d'un changement, d'une translation très importante qui a lieu dans la culture européenne entre 1880 et 1930. Cette nouvelle centralité de la vie est à conceptualiser dans une crise fin de siècle dans laquelle on assiste au passage de la philosophie du sujet idéaliste ou de la philosophie sociale à la philosophie de la vie. Cela implique une nouvelle articulation entre l'individu et le tout, dans une vision plus organique où le tout a une priorité, mais sans effacer l'aspect formel, l'aspect individuel du sujet. Donc il y a une nouvelle articulation à définir entre le sujet et la collectivité, une nouvelle compréhension à chercher de la relation dynamique et relationnelle entre le parti et le tout. Et en d'autres mots, on essayera dans cette époque de la philosophie d'offrir une nouvelle interprétation à la lumière de la vie, de l'articulation entre le mouvement du devenir universel et les formes individuelles auxquelles ce dynamisme donne lieu. Une nouvelle compréhension de l'articulation entre la vie et les formes. Il y a donc une recherche d'un élargissement de la théorie de la connaissance à la lumière d'un retour à l'expérience vécue. Cela implique aussi une critique du rôle de l'intelligence et une réévaluation du rôle de l'intuition, du sentiment et même des pulsions, des émotions. La recherche d'un nouveau point de repère dans la vie s'impose en ce moment historique particulier pour plusieurs raisons, qu'il est important d'évoquer avant de commencer la présentation de nos auteurs. Il y a d'abord un événement culturel irréversible qui est la publication par Charles Darwin dans « Livre fondamental » en 1859, « L'origine des espèces ». Ce livre ouvrira une nouvelle perspective, celle de l'évolution de la vie,